Bonsoir, comment allez-vous? Savez-vous qui est Linda Brown? C'est la petite fille de 9 ans qui, dans la ville de Topeka, dans l'état du Kansas aux États-Unis d'Amérique, un matin d'hiver 1949, où elle allait à l'école, à pied et en bus, a fait demi-tour tant elle était fatiguée et gelée. Pourquoi ces interminables trajets puisqu'elle avait une école à 100 mètres de chez elle? Parce qu'elle était noire. Furieux, son père a voulu l'imposer dans cette école pour blancs, près de chez eux, cette école qui lui était interdite, cette école pour blancs construite avec les impôts des blancs et des noirs. Avec 13 autres familles, Mr. Brown a intenté un procès contre ce système éducatif qui refusait les noirs, contrairement à ce que disait la Constitution. Ils ont gagné sur le papier, ce fut l'arrêt Brown. Sur le papier, car malgré cet arrêt Brown, les noirs n'avaient toujours pas accès aux bonnes écoles des blancs. 8 ans plus tard, à force de bataille, 9 adolescents noirs sont enfin entrés dans un lycée pour blancs. Seulement 9, me direz-vous? Oui. Les autres inscrits n'ont pas résisté ni aux menaces de mort, ni aux persécutions. Ces 9-là ont vécu pendant une année scolaire l'inimaginable. C'est cet inimaginable que raconte l'historien Thomas Snegaroff dans un livre passionnant, Little Rock 1957, édité chez Talendier. Lundi dernier, Linda Brown est morte à Topeka, Kansas. Elle avait 76 ans.
Bonjour, je m'appelle Roman, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir, on est tous de la même famille. On n'est pas tous de la même famille. Merci.
Roman. Bonsoir, Roman. Bon, alors, Evelyne Neyer. On est tous de la même famille ou on n'est pas tous de la même famille. Roman, figure-toi que pour répondre à ta question, nous avons demandé à une professeure en anthropologie génétique au muséum de venir. Tu vois, Roman, comme ta question est importante.
J'aime beaucoup la question. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle famille. On sait qu'on est tous cousins, en fait. Donc, on appartient tous à la même famille parce que on vient tous, finalement, d'Afrique il y a environ 200 000 ans. Et donc, après, l'homme, il s'est répandu sur toute la planète. Et quand on regarde notre ADN de tous les individus sur la planète, on voit qu'il est très, très proche. Donc, on est tous des cousins. Alors, des cousins plus ou moins éloignés. T'es forcément cousine éloignée d'un Esquimau plus que de quelqu'un d'autre qui habite, par exemple, en Europe ou en Asie ou en Afrique. Bon, voilà. Donc, en fait, on est effectivement tous de la même famille, mais plus ou moins éloignés. Il y a même des scientifiques qui se sont amusés à calculer. Alors, voilà, si on est tous de la même famille, de quand date notre premier ancêtre commun à tous? C'est-à-dire, si je remonte ta généalogie, tes parents, tes grands-parents, et puis je remonte la généalogie de quelqu'un d'autre, eh ben, quel est le premier ancêtre que vous allez avoir en commun? Et on situe à peu près, à partir de calculs assez intéressants, comme quoi les mathématiques peuvent être marrantes, on situe cet ancêtre à environ 4000, 5000 ans comme ordre de grandeur. Donc on a tous un ancêtre commun qui finalement n'est pas si ancien que ça.
C'est très récent, 4000, 5000 ans pour vous?
Ah, tout à fait. Ah ouais. Oui, notre espèce, on apparaît il y a 200 000 ans, donc 4-5 000 ans pour nous, c'est hier, quoi.
Voilà, donc nous sommes tous de la même famille pour répondre à cette pertinente question. Annelise Heurtier a également écrit chez Casterman un roman sur cette histoire de 9 noirs dans un lycée blanc, Sweet Sixteen. Alors attention, écoutez-moi bien. Il y a aux États-Unis un État qui s'appelle l'État du Kansas, au centre-sud, capitale Topeka. À ne pas confondre avec l'État de l'Arkansas, un peu plus au sud, capitale Little Rock. C'est un petit peu comme l'État de Washington, complètement à l'ouest, capitale Olympia, alors que la ville de Washington, où il y a la Maison Blanche, est complètement à l'est. Vous me suivez? Quoi qu'il en soit, vous écoutez Les Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Genoveva, j'ai 9 ans et demi, et je voudrais savoir si les oiseaux peuvent ressentir de l'amitié pour un autre oiseau. Merci de me répondre, au revoir.
Josépha qui demande, Marie-Hélène Chiarisoli, vous êtes vétérinaire et attachée au Muséum d'Histoire Naturelle, qui demande si un oiseau peut ressentir de l'amitié pour un autre oiseau.
Bonjour Josépha, ta question est très amusante parce que les oiseaux peuvent ressentir de l'amitié pour un autre oiseau ou de l'inimitié, également envers un humain, envers un chien, un chat, tout est susceptible d'entraîner le coup de foudre comme le coup de haine. C'est assez frappant. Donc souvent les gens pensent qu'il faut que l'oiseau vive à deux, c'est vrai, ils sont souvent par paire. Il faut lui amener un autre oiseau. Et en fait, il se trouve que l'oiseau qui arrive va se faire, pas déchiqueter parce que ça n'arrive pas, mais on sent tout de suite qu'il va y avoir un gros problème. Et c'est vraiment le coup de foudre chez l'oiseau.
Ah, c'est marrant, l'oiseau a des émotions.
Ah oui, absolument. Ouais. Et il a des désirs ou des haines. Et on ne comprend pas trop pourquoi. Parfois, c'est parce que l'oiseau préfère l'homme ou préfère les femmes. Alors, on pense qu'il a été élevé au départ plutôt par un homme ou une femme. Puis là, je parle surtout des perroquets. Ce qui est amusant chez le perroquet, ou ce qui n'est pas amusant du tout, c'est qu'ils ont une puberté. Donc, en fait, ils éclosent en général dans un couvoir. L'éleveur ou le propriétaire prend l'œuf pour l'élever dans un coin parce que sinon, souvent, l'oiseau écrase ses œufs. Donc, on l'élève dans un endroit spécial, on le gave, c'est beaucoup de travail. Et l'oiseau, quand il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit ? Un humain. Donc, quand il est plus grand, il est fondé à se reproduire avec quelqu'un de son espèce. Son espèce, la personne qu'il a vue à l'éclosion, c'est un humain. Donc, il va se reproduire avec l'humain.
Ah oui, il va tomber amoureux de l'humain.
Voilà, il va plutôt tomber amoureux de l'humain. Donc, on peut lui amener un autre oiseau, il s'en fiche. Ce qu'il veut, lui, c'est aller avec le voisin d'en face ou avec la copine du garçon qui est là depuis toujours. Parce qu'à la puberté, en plus, il change de, entre guillemets, d'amour. Il veut plus de sa mère. Il veut d'un amoureux.
Normal.
Donc, la personne qu'il a eue pendant 3 ans, avec qui c'était le grand bonheur, tout d'un coup, devient la personne détestée et on va s'intéresser au mari ou à la petite fille. Et
ça, un humain, mais un autre humain.
Un autre humain.
Pas l'humain qu'il a nourri.
Voilà, exactement.
Ce qui prouve qu'il est assez sain.
Absolument. Il a sa période de puberté et après, il devient un oiseau fondé à se reproduire malheureusement avec un humain. C'est bien tout le problème de l'oiseau en captivité, enfin, du perroquet notamment, parce que le problème, c'est qu'il veut se reproduire. Donc, il faut savoir que les oiseaux ont un comportement particulier quand ils veulent se reproduire, qu'il ne faut pas l'encourager, sinon après, ça va faire des frustrations. C'est faussé à la base, c'est pour ça que maintenant on dit les perroquets, ils sont mieux quand ils sont éduqués par les parents. On veut toujours que la nature nous obéisse alors qu'on devrait obéir à la nature.
Tu es en leur une illusion d'optique. Juste l'odeur de la passion chimique. Pour une sirène, à quoi bon? J'ai un avion à la maison, à réaction. Bats les pattes, fais demi-tour, joli tambour. Je porte un casque anti-amour sur les oreilles. Descends de ta licorne rose. Tu vas te casser quelque chose sur moi. Viens me voir. À midi, on m'a dit j'aurais changé d'avis. Pas ce soir. J'ai appris tout seul sur le tard et sur le tas à résister à la torture, à la morsure, à laisser siffler les pétards, à protéger sous une armure mon petit cœur. Bel avenir si d'aventure typique, tu enjambais ma clôture électrique. J'ai passé l'âge de faire l'andouille. De toute façon, tu repartirais en citrouille et en chaussons. Thank you.
À midi, on m'a dit. C'était Albin de la Simone.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe de l'émission, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Je m'appelle Solal, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir comment respire-t-on dans les avions. Au revoir.
Merci Solal. Comment respire-t-on dans les avions? Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour les avions de ligne ou les avions de chasse, mais nous nous sommes adressés à vous, lieutenant-colonel Arnaud Ambert, qui pilotait des avions de chasse, dans lesquels vous respirez, j'imagine.
Oui, oui, tout à fait. On ne cesse de respirer, que ce soit dans un avion de chasse ou dans un avion de ligne. Dès lors qu'on prend de l'altitude, l'oxygène se raréfie. Donc, on a besoin d'un apport en oxygène, sinon on va tomber en hypoxie. Le phénomène est très rapide. Il est sournois même, car on ne le voit pas arriver, et ça nous met dans une situation délicate. En fait, on perd connaissance.
Ah, carrément.
Ce qui
oui.
peut poser problème.
Surtout quand on pilote.
Et nous, on a un système d'oxygène qui nous est amené par un tuyau, via une bonbonne, via un tuyau, jusqu'à un masque à oxygène qu'on a sur le visage.
Comme un plongeur.
Comme un plongeur, on a un apport en oxygène qui est réglé en fonction de l'altitude que l'on a. Il y a un réglage automatique qui se fait pour que, en gros, la pression partielle d'oxygène dans le corps soit toujours la même et corresponde aux besoins vitaux de l'être humain.
Ça, ce sont pour les militaires.
Voilà.
Et les civils?
Les civils, eux, ils n'ont pas le masque sur le nez, mais la régulation dans l'appareil, il faut considérer que l'appareil est un masque à oxygène. Donc, l'appareil apporte à l'ensemble des passagers, l'oxygène nécessaire au maintien de cette pression partielle.
Mais donc, on embarque de l'oxygène ou on la prend dehors?
Non, non,
on l'embarque.
Ah oui, oui, nous, on embarque, on a des bonbonnes de 8 litres d'oxygène liquide, tout à fait.
Mais même dans les avions de ligne, ils embarquent de l'oxygène?
Ils ont des systèmes de stockage d'oxygène de façon à pouvoir délivrer cet oxygène aux passagers, oui, bien sûr.
Voilà qui est rassurant. L'avez-vous lu dans le journal? Pas d'aujourd'hui, 1er avril, de lundi dernier, 26 mars. Donc, ça doit être vrai. Un ex-radiologue a décidé de ne plus se laver depuis 2 ans, car le savon déséquilibre le système microbien de la peau. Il se rince à l'eau simplement. Cependant, il y a une partie de son corps qu'il continue à laver avec du savon. Quelle est cette partie? Vous avez un petit peu l'esprit mal placé. Ce sont les mains.
Bonjour, je m'appelle Joachim. J'ai 7 ans et j'aimerais savoir pourquoi on doit se laver les mains après avoir fait pipi alors que pipi c'est stérile. Au revoir.
Bonsoir Joachim. Alors, docteur Salman, vous êtes vraiment le docteur lavage de mains. Ça, c'est votre dernier livre dont nous allons parler. Mais déjà dans les précédents, vous aviez beaucoup évoqué ce lavage de mains. Ce livre aussi s'appelle Votre santé sans risque, il est édité chez Albin Michel. Vous êtes médecin, je viens de le dire. Vous êtes cardiologue et nutritionniste. Alors, ces mains, dit Joachim, faut-il les laver puisque le pipi est stérile?
Joachim, t'as un bon sens extraordinaire. Il y a quelques années, j'avais mis en évidence l'étude qui montrait dans les pubs qu'il y avait 14 sortes d'urine différentes par bol de cacao.
Ah, j'étais sûre que vous alliez le rappeler, non?
Alors en fait, les gens sont alertés. Moi, j'ai dit, non, il n'y a pas de quoi s'alerter. L'urine est stérile. C'était juste une question de goût.
Oh non!
Aucun risque de ce côté-là. C'est vrai que si on doit se laver les mains une seule fois quand on va aux toilettes, je préfère avant de faire pipi qu'après. Avant, pourquoi? Parce qu'on a serré des mains douteuses, on a touché des surfaces souillées.
Les poignées de
porte. Et on va retrouver les germes d'un autre sur nos organes génitaux, garçons ou filles. Autrement dit, nos mains deviennent des aéroports à microbes en direction des organes génitaux. Donc, il vaut mieux laver les mains avant. Après, c'est bien, c'est plus convivial qu'après. Et c'est un réflexe formidable de l'adopter. Parfois, on trouve des maladies infectieuses. Vous pouvez transmettre des herpès, vous pouvez transmettre des tas de choses comme ça, des verrues. On ne comprend pas d'où ça vient. C'est simplement qu'on a utilisé ses mains aux toilettes en les posant là où il faut pas. Et souvent, regardez, par exemple, pour les garçons, quand on relève la lunette, le dessous de la lunette est très sale. C'est la partie qui est très sale, c'est le dessous.
Ah, mais oui, vous mettez vos doigts sous la lunette, après vous mettez vos doigts sur votre zizi et top, c'est parti.
Et pop, c'est parti. Donc, prenez une main pour relever la lunette et l'autre main pour tenir le zizi. Vous savez, l'hygiène, si on connaît ces règles d'hygiène qui ont été oubliez, moi quand j'étais enfant, il y avait des cours d'hygiène à l'école.
Ah ouais.
Ben, je veux dire que malheureusement, il n'y en a plus. Ben, tous ces petits règles d'hygiène de rien du tout vont faire qu'on peut passer à travers de bien des infections. Je vous en donner une autre. On reste aux toilettes. Aux États-Unis, quand on va faire aux toilettes, on rabat le couvercle, on tire la chasse d'eau après.
Oui.
En France, on est tellement fiers de ce qu'on a fait, on regarde, on admire, on tire la chasse d'eau et on respire. Eh bien, une étude a montré que, dans ce cas-là, on retrouve des bactéries, des virus sur le carrelage, dans la gorge, dans nos poumons.
Parce que la chasse d'eau projette.
Elle projette, c'est un aérosol à microbes. Eh bien, si on rabat le couvercle, tenez-vous bien, on diminue de 23% par an les infections ORL et respiratoires par un simple geste banal du quotidien.
D'autant qu'on peut, pardon si vous êtes à table, mais on peut regarder si ça fait plaisir pour voir ce qu'après tout sa production, pourquoi pas, mais refermer le couvercle ensuite.
Et c'est très important parce qu'il y a des centaines de petites règles d'hygiène que je souligne dans les livres, les gens les ont oubliées, ils se rendent malades pour rien.
Moi, je trouve que c'est une bonne idée de se laver les mains au lieu de les essuyer sur le canapé blanc de Tante Noël quand on a du chocolat plein les doigts. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scenes. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the life. Grim fool of Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45.
Everybody needs a bosom for glow. Everybody needs a bosom. And singing and dancing.
tellement bon, mais tellement bon, mais tellement bon. Mais comment avons-nous pu vivre sans ? Mais non, je parle pas du téléphone, enfin, voyons.
Bonjour, c'est Maxime, j'ai 12 ans, j'habite au Clé, je voudrais savoir comment on a découvert le chocolat. Merci, au revoir.
Maxime, on entend du bruit derrière Maxime, c'est peut-être du bruit de cuisine. Loïc, bien assis, vous avez dirigé cet ouvrage collectif édité chez Gallimard, le repas gastronomique des Français. Vous êtes historien à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation et c'est à l'université de Tours. Alors, le chocolat plaît à quasiment tout le monde. Maxime évoque sa découverte.
Alors, bonsoir Maxime. Alors, la découverte finalement du cacao est ancienne. Alors, il faut avoir en tête que le cacaoyer est un petit arbre qui pousse en Amérique du Sud. Le foyer initial du cacaoyer, c'est sans doute le bassin de l'Orénoque, donc l'Amérique du Sud, la forêt amazonienne. Il a ensuite remonté progressivement, on a du mal à avoir la chronologie fine, évidemment, vers l'Amérique centrale. La première consommation du cacaoyer, ça a sans doute été ce qu'on appelle la consommation du mucilage. C'est-à-dire que le cacaoyer porte des cabosses qui, à l'intérieur, ces cabosses, des sortes de grosses coques, contiennent des graines de cacao, les fèves de cacao. Et
il en contient 4 ou il en contient 100?
Ça peut dépendre. Il peut en contenir, je pense, une vingtaine, voire davantage, si je dis pas de bêtises.
Non, ça fait pas mal, quoi.
Et ouais. Ces fèves sont entourées d'une substance blanche assez douce qui s'appelle le mucilage. Et donc, on peut penser que les singes ont commencé à manger cette substance agréable et les hommes aussi. Ça a été ça, sans doute, la première consommation qu'on a faite de ces cabosses de cacao en mangeant le mucilage. On a des traces qui remontent vers 1400 avant Jésus-Christ.
Je comprends, c'est comme la cerise. On mange la chair, mais pas le noyau.
C'est un peu ça, sauf que la cerise, je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire avec du noyau de cerise, peut-être certains alcools, je ne sais pas. Mais tandis que les fèves de cacao, on peut vraiment les consommer.
Oui, mais pas au début. Au début, non, on les consommait, pas en consommer que ce qu'il y a autour.
Exactement,
qui était
c'est
doux.
Voilà, exactement. Il faut un traitement, il faut une préparation pour consommer la fève de cacao. Et on a des traces archéologiques de consommation par les Mayas de cacao, peut-être vers 1400 avant Jésus-Christ, donc très ancienne. Ce qui est sûr, c'est que le cacao est domestiqué au 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors là, on est en Amérique centrale, chez les Mayas. Et à ce moment-là, il y a aussi des boissons qui sont faites à partir des fèves de cacao. Donc si je dois répondre à la question, ceux qui ont découvert, exploité, domestiqué le cacao, les premiers, sont les Mayas avant Jésus-Christ. Voilà, au moins au 3e siècle avant Jésus-Christ.
Voilà pour vraiment la réponse précise à la question de Maxime. Maintenant, vous n'avez que quelques minutes pour revenir jusqu'à nous.
Voilà, exactement. Les Mayas, puis les Aztèques, hein, j'enjambe les siècles, hein, parce qu'avec les Aztèques, on est là
minutes,
au 15e siècle, vont accorder une grande valeur à ce cacao, mais par contre le consommer en boisson chaude. Et le cacao avait une telle valeur qu'il était même utilisé comme une monnaie. Donc les Espagnols arrivant vont découvrir cette marchandise, cette monnaie et ce produit, et vont l'adapter à leur goût, parce que c'est très amer le cacao. Donc ils ont ajouté, les Aztèques y ajoutaient beaucoup d'épices, les Européens vont y ajouter du sucre et de la vanille. Mais vont continuer longtemps à ne le consommer que comme une boisson. Elle triomphe d'abord, cette boisson, en Espagne, dès la fin du XVIe siècle, et surtout au XVIIe siècle, et au XVIIIe siècle, elle conquiert l'ensemble de l'Europe.
Avec les noyaux de cerise, on peut faire des coussins chauffants. Ça sent très bon et c'est très agréable. Vous pouvez retrouver cette émission sur franceinter.fr. Les petits bateaux sont terminés pour ce soir. Nous reviendrons dimanche prochain à 19h30. Noéliane Gérard, Marjorie Devoucoux, Marie-Claire Matoute, Noël Bréham. Et eux, Jean-Baptiste Audibert et Guillaume Roux. Et lui, Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.